France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Ah oui, ça c'est du... Ok.
Bonjour Emmanuel Haïm, on entend déjà votre voix. Drôle d'époque pour fêter ses 20 ans. Je vous souhaite pourtant un joyeux anniversaire.
Merci.
Alors pas vous personnellement, vous avez quoi, quelques années de plus, mais votre ensemble, le Concert d'Astrée, il est né il y a 20 ans, en 2000. L'Emmanuel Haïm d'il y a 20 ans, si elle avait pu voir dans une boule de cristal le chemin parcouru, mais aussi les choix artistiques, les disques enregistrés, qu'aurait-elle dit? Elle aurait été étonnée?
Oui, certainement, mais c'est presque un peu anticipé, parce qu'en fait, ce sera en 2021, nous, 20 ans, très exactement.
Oui, mais on est toujours un peu en avance, vous savez, nous, dans les médias.
C'est vrai, c'est vrai. Non, j'aurais pas du tout prédit de ce que l'ensemble allait devenir, allait faire. Quand on a commencé cet ensemble... En fait, j'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer et de tout ce qu'on allait pouvoir accomplir. Et je dois dire que non, j'en suis très contente.
Alors, c'était il y a 10 ans, le concert de gala, édité au disque, avec notamment Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
C'était il y a 9-10 ans, donc un extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, avec les voix assez reconnaissables de Nathalie Dessay et de Stéphane Degout, le concert d'Astrée dirigé par notre invité ce matin, Emmanuel Haïm. Là, c'était au Théâtre des Champs. Ces applaudissements qu'on vient d'entendre, Emmanuel Haïm, c'est ce qui vous manque le plus depuis plusieurs mois ?
Ah, c'est sûr que la présence du public et de... En fait, on se rend compte après cette période si particulière et si difficile que ça ne peut pas exister. En fait, la musique, elle ne peut pas exister si on n'est pas deux, c'est-à-dire ceux qui sont sur scène et puis ceux qui sont dans la salle et auxquels on essaye de communiquer la passion pour ce qu'on aime et de partager justement la passion de ce qu'on aime. Sinon, ça a du sens, mais enfin, ça perd quand même de son essence première, vraiment.
Vous avez participé un peu aux outils numériques, à ces choses-là confinement.
Alors assez peu, parce que d'abord nous on est une petite équipe au concert d'Astrée, on n'est pas très armés sur ce plan-là, d'une part, et on a fait un enregistrement pour annoncer la saison de l'Opéra de Lille modifiée, puisque tout le début de saison ne va pas être celui qui était prévu, et donc on a fait un enregistrement, mais qui était après le confinement, donc en juin. Mais en dehors de ça, non, pas vraiment. Puis j'ai plus de mal à communiquer avec un objet, en fait, qu'avec des gens. Je préfère les vrais gens.
Cette période-là, ça vous a interrogé, remis en question, remis au clavecin peut-être aussi ?
Oui. Ben, c'est vrai que il y avait quelques points positifs, néanmoins. Nous, les musiciens, on est beaucoup partis, énormément partis. Et là, au moins...
Partis en tournée avant
Voilà, on est tout le temps sur les routes, on est tout le temps avec des valises. Il y a un espèce de rythme comme ça qui est très intense. Et là, d'avoir un rythme un peu autre, de se recentrer, c'est pas désagréable du tout, et d'avoir du temps aussi avec sa famille, du temps chez soi, du temps de réflexion, du temps de travail d'instrument, c'est agréable. Mais un travail sans cette projection, qu'est le concert, sur lequel on est tout le temps en train de réfléchir, c'est-à-dire on programme son travail un peu en fonction de ça malgré tout. C'est plus difficile, je dirais.
Emmanuel Haïm, les musiciens du concert d'Astrée ne sont pas des musiciens permanents comme des orchestres, l'orchestre de Paris dont on parlait hier avec Laurent Bell, nos orchestres ici à Radio France. Ils sont donc intermittents, ils ont le statut intermittent, ils sont aujourd'hui protégés, le concert d'Astrée est protégé.
Alors, pas tous sont intermittents, parce que dans les grandes familles de musique ancienne et la famille du concert d'Astrée, il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui sont français, résidant en France et qui sont intermittents du spectacle. Il y en a qui ne sont pas nécessairement tous résidents en France, qui n'ont pas tous le statut d'intermittent. Certains ne sont pas forcément aussi d'une organisation extrême et donc ne sont pas nécessairement protégés par ce statut. Alors... Pendant cette période, on a en tout cas protégé tous ceux qui étaient programmés et qui devaient avoir des concerts, qu'on a pu indemniser pendant ce temps-là. Mais néanmoins, c'est pour nous, il y a des annulations qui ne sont pas remplaçables, et presque certaines annulations auxquelles on a dû décider en se disant, si tel ou tel concert n'a plus lieu au cours d'une tournée de 8 concerts, par exemple, qui rend cette tournée viable, à ce moment-là, la tournée n'est plus viable. Et donc, on ne peut plus la faire. C'est un peu le dilemme auquel on est face aujourd'hui. Ça a fragilisé tout de même l'ensemble. Et puis, malgré tout, malgré les systèmes de chômage partiel mis en place par le gouvernement, il y a un coût qui reste pour l'ensemble, pour l'employeur, et qui est important, et auquel une petite structure comme nous fait difficilement face.
Il y a quelques mois, sur France Musique dans Musique Matin. On était en version confinée. L'un de vos collègues, Sébastien Dossé, avait rencontré en visioconférence avec d'autres artistes le chef de l'État. Voilà ce qu'il nous disait quelques heures après.
C'était aussi l'occasion de dire qu'on a une crainte très forte pour l'avenir et pas seulement pour le court terme. Par exemple, les années 2022-2023 sont des vraies sources d'angoisse pour nous, qui sommes, bon voilà, en tout cas c'est le cas de Correspondance, mais aussi de beaucoup d'ensembles indépendants, des compagnies généralement moins subventionnées que les grandes institutions. Donc on est aussi d'autant plus fragile. En tout cas, on fait partie des jeunes structures qui sont entre 0 et 15% de subvention. Donc ça nous rend vraiment très fragiles quand on est face à une déstabilisation trop grande comme celle qu'on vit aujourd'hui. Et cette crise, elle peut potentiellement nous faire perdre 10 ans.
C'est énorme, 10 ans, Emmanuel Haïm, vous partagez ce sentiment de Sébastien Dossé?
Oui, oui, absolument. D'abord parce que tous les acteurs de la scène musicale internationale sont dans une incertitude extrêmement grande. Les programmateurs, certains programmateurs comme des maisons d'opéra sont subventionnés, donc eux, ils peuvent faire face à des jauges bien moins importantes, mais d'autres ont besoin que la salle soit remplie pour que le concert soit viable. Et donc sinon ils sont dans
viable économiquement.
Voilà. Et donc sinon ils sont dans l'obligation ou la contrainte d'annuler. Je pense à une tournée que nous on aurait dû faire par exemple en novembre-décembre, qui est une tournée des saisons, qui était une tournée importante.
Les saisons de Haydn.
Les saisons de Haydn, oui, de 7-8 concerts, dont 3 en Corée. Les Coréens ont jugé difficile de maintenir cette tournée. Du coup. La moitié de la tournée s'est effondrée. Les reports sont compliqués. Tous les calendriers sont en train d'être modifiés et secoués un peu comme dans un grand vase.
Ce mardi 25 août, au calendrier, en tout cas, les saisons de Haydn, vous les donnerez les 1er et 2 décembre à l'Opéra de Lille et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le 3 décembre, on va parler d'un opéra français très peu connu, voire inconnu, mais voici d'abord un opéra anglais très connu.
Thank you.
L'ouverture de Didon est née d'Henri Purcell, le concert d'Astrée dirigé par notre invité, Emmanuel Haïm, notre invité jusqu'à 9h. Ça, c'était l'un des premiers enregistrements de votre ensemble qui fêtera en janvier ses 20 ans. Tiens, c'est une question qui me taraude toujours. Là, quand vous vous entendez diriger il y a 17-18 ans, si ce soir vous dirigez votre orchestre, vous le dirigez de la même façon ou ça a beaucoup évolué en presque 20 ans?
Je ne sais pas si ça a évolué sur 20 ans, mais je dirais que d'un soir à l'autre, c'est jamais la même chose. Donc en fait, c'est plutôt ça, c'est sur l'inspiration du moment. Mais juste à la réécoute de cette ouverture que je n'ai pas entendue juste récemment, quel génie Purcell. Mais on a fait monter Indian Queen l'année dernière à l'Opéra de Lille avec une très très belle... mise en scène de Guy Cassirs et chaque moment est un émerveillement de richesse harmonique, de subtilité, de complexité harmonique, vraiment d'invention extraordinaire. Quel dommage qu'il n'ait pas vécu un peu plus.
André Campra est-il un génie?
Absolument, et très différent, très personnel. Enfin, je trouve une personnalité très singulière qui unit vraiment le Sud et le Nord, je dirais. C'est un homme qui est vraiment d'Aix-en-Provence, qui vient vraiment du Sud. Alors, cet opéra...
Idoménée, donc.
Idoménée de Campra, nous n'allons pas le donner en version intégrale comme il était prévu, mais nous allons en donner une version très raccourcie, je dirais, à peu près la moitié de cette œuvre, c'est-à-dire la quintessence peut-être de cette œuvre, qu'on va faire avec Alex Olé à la mise en scène.
À Lille.
À l'Opéra de Lille, oui, absolument.
Alors, pour resituer, c'est une nouvelle saison qui se profile, évidemment, pas comme les autres, pas classique, avec ce festival qui s'appelle l'Inattendu Festival. Vous n'êtes pas Caroline Sorrier, la directrice de l'Opéra, mais vous êtes depuis un certain nombre d'années en résidence. À Lille, vous dites que c'est resserré, cette Idoménée de Campra qui commence le 3 octobre, resserré pour des raisons artistiques ou sanitaires?
Non, pour des raisons sanitaires, de façon à ce qu'il n'y ait à la fois pas d'entracte, donc il n'y ait pas d'aller et venu du public dans les espaces publics justement, mais que tout ça soit très... contrôlé. En fait, Caroline m'a appelé au début du mois de juin, un petit peu avant, pour me dire, voilà, pour la rentrée, on va pas tout annuler, parce que la plupart des opéras européens ont annulé leur début de saison, et on va réfléchir à autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Donc, une forme où l'orchestre, pour qu'il puisse prendre sa dimension, il peut pas rentrer dans une fosse, du moins dans une fosse, il nous resterait 15 personnes ou 14 personnes avec les normes demandées. Donc, l'orchestre va être disposé tout à fait différemment.
Sur la scène?
Voilà. La mise en scène va être complètement différente également. Et donc, on a imaginé une autre version. Elle m'a dit, est-ce que tu penses que c'est possible? Donc, j'ai dit, en tout cas, on va essayer. Et pour accompagner...
Ça vous a interrogé ou pas? Parce que ça peut vous poser des questions éthiques de couper un opéra. Parfois, on le fait parce qu'on le trouve trop long, tout simplement. Là, c'est pour qu'il n'y ait pas d'entracte.
Des questions éthiques, je dirais non. D'une part, parce que l'opéra dans son intégralité, du coup, a été déplacé et sera remonté... si on est toujours là l'année suivante. Donc non, pas trop, mais en revanche, des questions pratiques et des questions de faisabilité, des questions acoustiques, oui, certainement.
Vous allez faire partie des tout premiers à reprendre le chemin des répétitions.
On espère.
À l'opéra. ça a commencé?
Non, ça commence dans quelques jours. Donc, évidemment, tout le monde est un peu sur le pied de guerre parce qu'on attend les dernières consignes qu'on espère positives. Mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est le fait que ce soit très très changeant et très en fonction de l'évolution des normes sanitaires qui sont données un peu au jour le jour. Donc ça, c'est très fragilisant pour tout le monde. Avec chance, on n'a pas d'artistes qui viennent de pays excessivement lointains, c'est-à-dire soit d'Asie, soit d'Amérique latine ou du Nord.
De toute façon, vous auriez dû les faire remplacer.
Probablement. Si ça avait été le cas. Probablement. Donc par extraordinaire, il se trouve que dans cette œuvre baroque française, les gens sont majoritairement français ou francophones et qui ne viennent pas de trop loin, à part le rôle titre qui est grec, donc, mais qui peut venir jusqu'à nous. Donc voilà, on espère qu'on va effectivement pouvoir répéter et donner cet opéra, ainsi que le festival qui va accompagner cet opéra.
On va reparler d'autres événements de cet inattendu festival de l'opéra de Lille, Emmanuel Haïm. Cet Idoménée d'André Campras, c'est du 3 au 17 octobre. Un disque, un jour prochainement, pas encore, vous n'avez pas encore enregistré Campras, votre dernier disque. C'est un merveilleux disque avec un autre compositeur cher à votre cœur, Handel. Les voix merveilleuses de Sabine Devielle et Léa Desandres. J'ai toujours un doute sur la prononciation de son nom. William Christie, votre maître, m'a toujours dit qu'il faut dire Desandres. On lui demandera la prochaine fois qu'elle viendra, c'est le plus simple. Le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm. Et c'était votre disque, Abinta et Philidé, Handel, merveilleux disque. Emmanuel Haïm, on a très peu de temps. Je voudrais qu'on parle d'autres événements autour de cet inattendu festival, et notamment des participation plus petite du concert d'Astrée avec des concerts pour des publics moins nombreux qu'à l'Opéra de Lille.
Oui, alors en fait, pendant toute cette période, on avait monté un grand événement qui s'appelle « Il n'y a plus de saison ». Et qui est basé sur à la fois un travail avec des publics très différents, mais et une approche du public aussi très différente, des concerts où on demande une participation un peu du public dans des domaines variés, par exemple un acteur qui vient et ou un marionnettiste ou un plasticien, et il y a des moments de restitution. avec des publics, que ce soit scolaires ou en EHPAD ou dans des prisons ou dans des hôpitaux. Et tout ça était étalé sur avril, mai, juin, juillet, et puis se prolongeait septembre, octobre, etc. Alors évidemment, et puis se clôturait par les saisons de Haydn, où une partie de ce public nous accompagnait et venait un peu aux répétitions. Évidemment, tout ça a été complètement annulé et potentiellement reporté. On espère que ces événements vont pouvoir avoir lieu. Et tout ça, c'est tout un travail qui se fait dans les Hauts-de-France, qui est un maillage, un tissage un peu serré avec différentes institutions sur tout ce territoire-là, si vous voulez.
Emmanuel Haïm, le concert d'Astrée en résidence à l'Opéra de Lille. Dans les Hauts-de-France, il y a aussi des concerts, on aurait pu en parler, mais on n'a plus beaucoup de temps, des concerts pour les bébés. Vous êtes en résidence dans un collège, le collège Myriam Makeba à Lille. Oui. Mais pourquoi pas, on pourra partir en reportage, vous suivre un de ces jours prochains. Moi, j'ai juste une dernière question à vous poser. On vous soulève souvent la question de la femme chef d'orchestre, on ne l'a pas fait encore depuis 8h30, mais il y a une question d'actualité, il y a un concours qui s'appelle la Maestra, qui va commencer à la Philharmonie de Paris dans quelques jours, il y a les pour, il y a les contre, j'aimerais savoir ce que vous, qui êtes une des plus célèbres chefs d'orchestre européennes, ce que vous en pensez.
C'est vrai qu'on m'a posé dès le début cette question fréquemment, et qu'au début c'était une question qui me surprenait, voire qui m'irritait, parce que je ne voyais pas le pourquoi du comment. Pour moi, si on sait ce qu'on veut faire dans la vie et qu'on le veut vraiment très fort et qu'on s'en donne les moyens, ben on le fait, et la question d'être un homme ou une femme ne se pose pas. Au bout maintenant de 20 ans de carrière, je dois dire que en fait la question probablement se pose, et pour les jeunes qui arrivent maintenant et qui souhaitent diriger, c'est vrai que c'est aussi un peu une course d'obstacles. Donc pourquoi pas donner peut-être un peu un spotlight et de donner un petit coup de main aux jeunes filles et jeunes femmes qui veulent commencer et sous cette forme-là, pourquoi pas, je suis pas contre.
Merci Emmanuel Haïm.
Je vous en prie.
Rendez-vous à l'inattendu festival à Lille avec cet Idoménée de Campra du 3 au 17 octobre. Et c'est la maestra Haïm qui dirige ici Monteverdi. Revenez les baisers, presque un hymne anti-Covid. Monteverdi avec le concert d'Astrée, des voix comme celle de Rolando Villazone et Emmanuel Haïm, notre invité. Merci beaucoup.
Il y avait Topi les Tipous.
Topi les Tipous
également. Qui chantait avec Rolando.
Demain, notre invité sera un autre grand chef baroque, mais pas seulement. Et Hervé Niquet sera à votre place.
Je salue.
C'était, on lui transmettra. Maïwenn le géant et du tout Diego Aclopès à la technique. Margot Muller, Marion Guillemet. Et Laure Poissonnier ont préparé cette émission. Yacine Bouzard était à la réalisation. Notre jeu, est-ce qu'on écoute un peu? Non, on n'écoute pas. C'était le quintet pour deux violoncelles de Schubert qu'on écoutait et qu'on peut retrouver en vidéo sur francemusique.fr avec le quatuor Parisi et Emmanuel Bertrand. Une vidéo à retrouver du festival France Musique. On les écoute en revanche, ça c'est sûr. Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste. Il sera question de vent. Vous aimez le dieu Éole?
Bien sûr, et j'aime les vents.
Vous aimez bien si vous... Ah oui, ça c'est vrai.
Ah bah oui, oboïste.
Oui, vous jouez, voilà.
Oui, donc, un petit peu.
Une petite démonstration, un séjour nous fera bien plaisir, Jean-Baptiste.
On a écouté un grand oboïste tout à l'heure, François Leleu, j'espère que...
Oui, on l'a reçu hier.
Tout bras ouvert.
Ah oui, il nous dit bienvenue.
Bienvenue en France.
Absolument.
Allez, rendez-vous demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.